France Inter.
Je suis très inquiète, j'ai peur que le président s'en aille et que ce soit l'anarchie. C'est parce que tu ne sais pas ce que veut dire l'État en Égypte. L'État, c'est la sécurité d'État, les services de renseignement généraux, les services de renseignement militaire, plus la police, l'armée, les médias, la justice, qui sont totalement fidèles au président. Mais tous les jours, on dit que les manifestations vont s'arrêter, mais elles prennent de l'ampleur. Patiente quelques jours et tu verras, tous ces vauriens qui manifestent vont se faire arrêter et seront jugés par des tribunaux militaires. Ce sont là des supputations, pas des informations. Il sourit et lui dit « Ça, c'est ce que m'a appris l'histoire. Toutes les luttes qui surviennent entre le peuple et le pouvoir se terminent toujours par la défaite du peuple. Le pouvoir en Égypte échoue peut-être dans tous les domaines, sauf à soumettre les Égyptiens. » Ala El Aswani est ce soir notre invité à l'occasion de ses livres et notamment de cet extrait très court que je viens de lire du dernier livre d'Ala El Aswani intitulé « J'ai couru vers le Nil ». On parlera de ses engagements, de son itinéraire, de sa vie en exil aux États-Unis. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique avec une Égyptienne à la voix sublime qui s'appelle Natacha.
Takes root in our souls.
L'écriture serait-elle un don héréditaire? On peut se poser la question, Ala El-Aswani, quand on sait que votre père, qui était issu d'une famille intellectuelle égyptienne, était aussi un grand écrivain. Quel type d'éducation avez-vous reçu de lui?
Ah oui, quelle éducation! Moi, j'étais aussi un enfant unique, alors j'étais très attaché à mon père. Et il était copain de tous les grands noms de littérature à l'époque qui venaient chez nous passer des soirées et discuter. Et moi, je participais, comme malgré le fait que j'étais très petit, à ces discussions. Et toujours, il respectait mon opinion. Mais c'est mon père qui m'a dit... tu es doué et en littérature, et ça ne veut pas dire que c'est tout. C'est rien, le talent c'est rien, si tu ne travailles pas. Tu dois travailler sur la littérature. C'est lui qui m'a conseillé d'être dentiste, parce que c'est grâce à l'autre métier, il m'a dit, que tu seras un écrivain indépendant. Et c'était son cas, lui, il était avocat aussi. Il m'a construit comme écrivain. Je n'oublierai jamais ses conseils.
Alors, on sait que très vite, vous êtes parti pour les États-Unis, vous avez quitté l'Égypte pour suivre justement ses cours pour devenir dentiste. Donc, éducation dans un très bon lycée, d'ailleurs.
Au lycée français du Caire.
Au lycée français, c'est pour ça que vous parlez admirablement le français.
Merci,
puis ensuite, les États-Unis.
Oui.
Et quand vous avez eu tous vos diplômes en tant qu'étudiant, vous n'avez eu qu'une seule idée, revenir exercer votre métier de dentiste dans votre propre pays et ne pas rester aux États-Unis.
Exactement.
Pourquoi ?
Pour l'écriture. Moi, j'ai pensé que je dois rester chez moi, je dois rester en Égypte pour être écrivain. Le fait que vous serez loin de l'Égypte, à l'époque, moi, je pensais que ça aurait été difficile pour moi de commencer la carrière comme écrivain, vous voyez. Alors, je suis rentré seulement pour l'écriture. Et j'ai refusé d'enseigner à l'université parce que je voulais vraiment mon temps. J'ai travaillé dans mon cabinet dentaire toujours, mais j'avais toujours le droit de contrôler mes horaires, mon temps, pour l'écriture. L'écriture, parce que ça, c'est un autre conseil de mon père. Il m'a dit, tu dois avoir l'écriture comme la chose la plus importante de ta vie. Et tu dois te demander chaque matin, est-ce que l'écriture, c'est la chose la plus importante? Si, il m'a dit, si la réponse est non, ce n'est plus la chose la plus importante, tu dois arrêter d'écrire, parce que tu ne vas rien faire. L'écriture doit être toujours la priorité, la chose la plus importante.
Aviez-vous des maîtres quand vous avez décidé que votre vocation d'écrivain allait continuer? On sait qu'il y a de très grands écrivains égyptiens, je pense évidemment à Naguib Mahfouz. Ou étiez-vous plus intéressé par la littérature européenne?
Les deux, parce que moi j'avais de la chance d'être au lycée français du Caire, parce qu'à l'époque on avait un programme de littérature française incroyable. On étudiait les grands textes simplifiés quand on était petit, et après on étudiait les textes originaux. Alors, et aussi j'avais de la chance parce qu'il y avait à l'époque, je parle des années 60-70, il y avait un système qui s'appelle la coopération. À travers lequel les jeunes avaient le choix en France ou bien de faire le service militaire ou bien d'enseigner français ailleurs. Alors on a reçu vraiment une génération incroyablement vraiment libérale des jeunes qui ont refusé de faire le service militaire et préféré d'enseigner le français ailleurs. Et c'était vraiment, ils nous ont marqué, vous voyez, parce que on était petits et eux, on a appris beaucoup plus que la langue et beaucoup plus que le grammaire, beaucoup plus même que la littérature. On a appris une vision du monde très tolérante, très ouverte, qui défend la liberté, et très tôt. Alors, c'est grâce à cette culture que j'ai pu vraiment faire mon succès littéraire. Et aussi, Naguib Mahfouz était copain de mon père. Alors, c'était très facile pour moi de le contacter, de le connaître, et j'étais influencé par lui, pas seulement au niveau littéraire, mais au niveau personnel.
Alors, c'était un homme exceptionnel, d'une très grande humanité, absolument. Avec des combats universaux.
Absolument.
Alors, vous parlez de votre succès littéraire à la Souani, parce que le premier livre que vous avez publié a été un coup de maître. C'est ce livre qui est resté dans nos mémoires, qu'on peut relire encore aujourd'hui parce qu'il n'a pas pris une ride.
Merci.
Il s'appelle « L'immeuble Yacoubian ». Et il invente un régime d'écriture à la jointure de l'enquête documentaire, de l'observation du peuple, des menus faits et gestes qui font l'âme du peuple, et en même temps de l'observation philosophico-politique. Comment avez-vous créé ce type d'écriture? Est-ce que ça vous est venu par un travail d'enquêteur très assidu, ou est-ce que c'est le fruit de votre imagination relayée par une observation quasi ethnologique?
Ah, c'est une question très difficile à répondre, parce que je peux pas vraiment dire.
On y est dans l'immeuble quand on est lectrice ou lecteur.
Ce que je peux dire, que j'ai appris que l'étape la plus importante de l'écriture, c'est être capable de créer des personnages vivants. Parce que on peut créer des personnages
vivants et vrais.
Exactement. La formule, c'est la fiction égale réalité plus imaginaire. Alors, je suis inspiré par des vraies personnes et je travaille à travers l'imagination pour créer les personnages vivants. Ça, c'est l'étape la plus importante, parce que on peut commencer par des personnages théoriques qui présentent des choses mais qui ne sont pas vivants. Et alors, on va produire, à la fin, on va écrire un roman mort. Hein, parce qu'il y a le roman mort et le roman vivant. Alors, ça me prend du temps pour imaginer les personnages, pour mettre tous les détails possibles sur le personnage. À un moment donné, je sens que le personnage existe. Il restera toujours invisible, mais il existe, je le connais, il est avec moi. Et quand je commence l'écriture du roman, ça roule. Parce que les personnages sont très clairs, vous voyez. Alors, et à un moment donné, ce qui produit un plaisir incroyable, les personnages m'échappent. Ils deviennent indépendants, ils font ce qu'ils veulent, ce qu'ils décident, et moi j'écris ce qu'ils font, ce que je vois sur l'écran de mon imagination.
Vous courez après eux?
Absolument, et parfois, ils disent, ils font des choses avec lesquelles je suis d'accord. Et souvent, ils font des choses et ils disent des choses que je n'aime pas, mais je ne peux rien faire. J'écris, ils sont plus mes personnages, mais ils sont devenus indépendants. J'écris ce qu'ils font.
Vous êtes aussi un grand essayiste. Vous avez publié des textes sur l'islam, et notamment un livre que je recommande particulièrement qui s'intitule « Extrémisme religieux et dictature, les deux faces d'un malheur historique ». Et j'ai l'impression qu'à l'intérieur de votre itinéraire, à la El Aswani, il y a eu un changement. Dès que, assez tardivement dans votre vie, même si je pense que vous avez toujours été un militant pour les droits de l'homme dans votre propre pays, mais vous avez fondé un parti d'opposition avec des copains, et à partir de là, évidemment, votre vie a basculé, mais votre écriture aussi a changé.
Oui, mais l'écriture, c'est, il y a tout dans votre écriture. Si vous êtes écrivain, surtout si vous êtes romancier, vous devez être avec les gens. Vous devez. C'est pour cela que ça a été très utile pour moi d'être dentiste. Parce que j'étais toujours avec les gens, j'étais jamais isolé. J'étais toujours dans la vie quotidienne et j'apprenais toujours comment les gens se comportent, comment les gens sentent, et ça a été très utile pour moi pour l'écriture. Alors moi, je pense qu'un philosophe, il peut être isolé, mais un romancier jamais. Un romancier doit être toujours parmi les gens, parce qu'il écrit sur les gens, pour les gens.
Mais vous avez fondé donc avec des camarades un mouvement d'opposition, Kifaya,
oui.
Ça suffit, c'est en traduction française. et qui réclamait déjà en 2004 des élections présidentielles réellement libres.
Oui.
Ça, c'était en 2004.
Oui.
Et en même temps, à cette époque-là, vous vous disiez loin de toute appartenance politique. L'êtes-vous encore aujourd'hui, loin de toute appartenance
politique ?
Oui,
absolument. Je ne pense pas qu'un romancier doit être un membre dans un parti politique. Et je pense que l'expérience m'a appris et a appris que c'est contradictoire. Je suis romancier, ça veut dire que je suis libre. Je dois toujours écrire ce que je pense, pas ce que je décide de mon parti. Vous voyez. Alors, Kefaya n'était pas un parti politique, c'était un mouvement. Un mouvement pour la démocratie. Alors, j'étais membre de Kefaya et après, j'étais membre dans ce qu'on appelle l'Assemblée pour le changement en Égypte. Ce sont des mouvements. Mais j'ai toujours refusé d'être membre dans un parti politique.
Alors, il y a un événement qui s'est passé dans votre ville, le Caire, en 2011, dont on se souvient tous et toutes avec beaucoup d'émotion. C'est ce qui s'est passé sur la place Tahrir. Tout à l'heure, en début d'émission, j'ai lu un court extrait d'un de vos livres qui est traduit de l'arabe par Gilles Gauthier, qui s'intitule « J'ai couru vers le Nil ». C'est un roman polyphonique, c'est un roman savamment architecturé, où des personnes de différents âges et de différentes opinions vont pouvoir s'exprimer grâce à votre talent talent d'écrivain, mais aussi de conteur, mais aussi de personnes engagées pour la démocratie. Et cet événement, j'ai l'impression, a fait basculer votre regard personnel, mais aussi d'écrivain. Qu'avez-vous vécu sur cette place Tahrir Allah El Aswani, durant toutes ces semaines où on a cru que la démocratie allait pouvoir se réinstaurer dans votre propre pays? Je crois que vous n'avez pas dormi, vous n'avez pas bougé de cette place Tahrir, vous y avez écouté les personnes, vous y avez vous-même pris la parole. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui avec un peu de recul du temps?
Non, je ne peux pas m'éloigner du terme miracle, parce que c'était vraiment un miracle, vous voyez. On a passé 18 jours entre 1 million et 3 millions de personnes, face à face avec la mort. Moi, je me souviens, et j'ai décrit ça dans le roman, je me souviens très bien quand les snipers commençaient à tuer mes camarades. Et d'une manière incroyable, il y avait toujours un cercle, ou bien un cercle vert ou orange qui circulait comme ça. Chaque fois que le cercle s'arrête signifie la fin d'une vie humaine, parce qu'il tirait dans la tête, vers la tête. Et les gens n'avaient pas peur. On a fait une petite république à la place Tahrir que je décris dans le roman. Tout était organisé, il y avait des responsables de sécurité, de presse et tout. Moi, je faisais à mon cabinet dentaire, qui n'était pas loin de Tahrir à l'époque, je faisais une conférence de presse chaque jour à 13h. Et j'ai accueilli presque tous les journalistes occidentaux au Caire, parce qu'ils me faisaient confiance plus que le ministère d'information. C'était moi, je parlais aux manifestants au micro chaque fois, une fois ou deux fois pendant la nuit, et j'ai parlé en public plusieurs fois, des milliers, des centaines de fois, mais s'adresser aux révolutionnaires, parler devant 1 million de personnes qui sont préparées pour mourir, absolument, pour que leurs enfants soient traités comme des êtres humains, avec dignité, qu'ils seront libres, c'est un sentiment inoubliable.
Aujourd'hui, à l'intérieur de vos écrits, on a l'impression, Allah El Aswani, que ce qui s'est passé sur cette place Tahrir en 2011 veut être effacé de la mémoire collective du peuple égyptien par les autorités politiques.
Absolument, hein. On a dépensé des millions, des milliards de dollars pour qu'on efface ce qui s'est passé. On a créé des chaînes de télévision totalement contrôlée par les services, pour créer des mensonges, pour essayer d'effacer l'histoire de la Révolution et produire une autre histoire qui est totalement fausse. Que c'est ça. Par exemple, il disait, c'est pour cela que je suis poursuivi devant un tribunal militaire à cause de ce roman. Parce que le roman reste, vous voyez. Et à la fin, malgré tout l'argent qu'ils ont dépensé, il y a la vérité quand même, vous voyez. Alors il suffit qu'un romancier écrit ce qui s'est passé, hein, que ça a détruit tous les plans du pouvoir. Et c'est pour cela, vraiment, ils sont vraiment en colère à cause de ce roman, vous voyez.
Aujourd'hui, vous avez été obligé de quitter votre propre pays, l'Égypte, et vous vivez aux États-Unis, à New York, où vous enseignez dans deux universités. Que vous reproche le gouvernement égyptien et quand pensez-vous pouvoir retourner dans votre propre pays ?
Non, mais j'avais des problèmes. Mes problèmes commençaient dès que M. Sisi est arrivé au pouvoir. Dès que M. Sisi est arrivé au pouvoir, 2014, j'étais interdit à la télévision. Et après, interdit d'écrire dans les journaux. Et après, égyptien, tous les journaux égyptiens. Et après, j'étais interdit d'organiser mon séminaire littéraire que j'avais organisé pendant 20 ans. Et après, ils ont fabriqué un procès, un problème avec ma fille, à cause d'un accident de route et des choses. Et après, ils ont commencé à m'embêter à l'aéroport. Mais, j'enseignais en Amérique et je rentrais. Chaque fois avec des difficultés, des problèmes, je rentrais. Cette fois, j'ai enseigné à Dartmouth University et j'allais rentrer. Mais j'ai su que je suis poursuivi devant un tribunal militaire. Ils m'ont accusé, à cause de ce roman, d'avoir insulté le président et insulté l'État égyptien. Le tribunal militaire en Égypte, c'est égal la prison. Ça veut dire que vous serez en prison. Et ça ne sert à rien d'envoyer des avocats, des choses, parce que la décision est faite, déjà. Alors, mes avocats m'ont dit que j'allais rentrer, mais mes avocats m'ont dit non, mais tu restes un peu pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire.
Aujourd'hui, votre famille est en sécurité ? Parce que votre livre est dédié à votre famille.
Oui, j'espère.
Vous ne le savez pas vraiment ?
Non, j'ai une fille avec moi à New York, mais et ma femme et l'autre fille vont me rejoindre, mais ils avaient des soucis avant. Ils avaient des soucis, des problèmes, surtout une fille, parce que il essaye de t'embêter, de vous embêter, soit contre vous ou contre votre famille. Mais elles vont nous rejoindre en Amérique et j'espère qu'il n'y aura pas de soucis.
Dans cette émission, Alaa El Aswany, on demande à des personnes qui connaissent l'invité de s'exprimer à son sujet. Nous avons demandé à Farouk Marianne Bey, intellectuel, écrivain, directeur de cette collection prestigieuse Simbad, très importante en France, de nous dire qui vous étiez. Écoutez, dites-nous si vous êtes d'accord.
Alaa El Aswany est actuellement le romancier arabe dont les romans connaissent la plus vaste diffusion, aussi bien dans le monde arabe qu'à l'étranger. Je crois que ses livres sont traduits dans près de 30 langues. Et il a été l'un des premiers à avoir une diffusion massive. Je dois dire que ce qui est passionnant, c'est surtout qu'il est un formidable conteur. C'est ce qui retient l'attention d'abord par ses lecteurs et sa façon de camper des personnages forts. Cela a été le cas des Les meubles de Yacoubian, on s'en rappelle. Et on se rappelle aussi, bien sûr, on se rappelle surtout ceux qui ont vu le film après qu'il a été tiré de ce roman et qui a été joué par les plus grands comédiens égyptiens. Dans le dernier roman, justement, il campe des personnages de représentants des différentes, disons, opinions, aussi bien du côté du pouvoir comme du côté de l'opposition ou des gens qui, des observateurs, disons, qui ne sont pas nécessairement engagés aussi fort que les autres.
Alors, réaction à la Al-Aswani. C'est vrai que vous êtes un conteur et que vous tissez les films, les fils et les films, parce que vos livres sont très visuels. C'est-à-dire que quand on vous lit, on a l'impression de voir les lieux, de contempler les paysages, de voir les visages de vos personnages. Et à l'intérieur de ce dernier livre qui évoque justement ces événements révolutionnaires sur la place Tahrir, vous faites preuve aussi d'un talent incroyable, mais qui existait déjà depuis le début de votre écriture, depuis l'immeuble Yacoubian, c'est l'humour. L'humour, c'est la pire des armes pour pouvoir dire du mal des puissants qui ne laissent pas la liberté au peuple.
Merci, je vous remercie infiniment et merci à Farouk qui vraiment... Je remercie tout le monde, je dois vous remercier, merci Farouk aussi. Et l'humour, merci pour me dire ça, mais moi je pense, même loin de mon écriture, je pense qu'un écrivain il est toujours plus capable de voir l'humour, de voir la comédie qui existe dans une scène, plus que les autres, parce que ce qui est comique, elle est comique parce que c'est contradictoire, vous voyez. Il y a toujours une différence entre ce qui se passe et ce qui se passe maintenant et ce qui doit se passer, vous voyez. Alors, je pense que l'écrivain est plus capable de voir cette contradiction que les autres. Et c'est normal que tous les grands écrivains, moi je parle plus de moi maintenant, je parle du concept de l'humour. Tous les grands écrivains avaient cette capacité, vous voyez, s'il s'agit de, je me souviens des scènes, vraiment, avec beaucoup d'humour, à un moment donné, on se met à rire. Hein. Chez Nagui Mahfouz, chez Balzac, chez Dostoïevski, chez Tchikov, il n'y a presque aucune exception. Et j'explique ça par le fait que vous êtes écrivain, vous êtes en train d'observer la vie, vous serez toujours capable de voir la contradiction avant les autres. Vous voyez, ce qui fait que vous serez capable de présenter la comédie qui existe l'esprit de l'humour plus que les autres.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue. Je ne sais pas si votre choix musical est franchement drôle, mais en tout cas, il est nostalgique. Et nous sommes très heureux d'écouter Charles Aznavour.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, la bohème. Et nous avions tous du génie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, la bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème. Et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon marbre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème, la bohème, ça ne veut plus rien dire du tout.
Merci de nous avoir permis de réentendre Charles Aznavour à la Souani. Mais pourquoi ce choix, la bohème, vous l'avez vécu, vous ?
C'est pas question que j'ai vécu, c'est question que j'adore la Charles Aznavour, comme des millions de gens, mais aussi je reste fidèle à la chanson française, je reste fidèle à la culture française. Et je pense que ça, c'est un exemple, peut-être, qui est devenu un peu rare maintenant, c'est qu'on voit une chanson française 100%. Française, il y a pas seulement la musique et pas seulement le grand chanteur, mais il y a aussi le poème, vous voyez. Ce que je n'aime pas, hein, c'est que parfois, ou disons malheureusement plusieurs fois, je vois ou j'entends des chansons françaises qui ont une influence américaine pour moi insupportable. Vous voyez, la France est une grande culture. Hein. Alors, vraiment, la chanson française, c'est une chanson française. On doit pas copier, vous voyez, l'expérience américaine, parce que ça ne sert à rien. Il y aura toujours la chanson américaine. Alors, Charles Aznavour, cette chanson, par exemple, présente pour moi un modèle de la chanson française. Et c'est un chef-d'œuvre, vraiment.
Vous êtes fidèle aussi à la littérature française, à la philosophie française. Vous lisez en français, même si vous écrivez en langue arabe. Je vous propose d'écouter la voix d'Albert Camus. D'ailleurs, je crois qu'il vous a provoquer des petits problèmes, parce que se balader en Égypte avec un livre d'Albert Camus, c'est pas forcément facile aujourd'hui. Nous allons écouter la voix de Albert Camus à propos de la notion de révolte. C'est une archive INA du 19 septembre 1955.
La révolte, comme tous les mouvements de l'esprit ou du cœur humain, c'est à la fois la pire et la meilleure des choses, et il est tout à fait naturel qu'un écrivain qui s'intéresse aux passions de l'homme autant que de son intelligence essaie de donner à ses passions la plus grande efficacité, la plus grande utilité possible sur le plan de la vie la plus simple comme sur le plan de la vie sociale. Et j'ai essayé de tirer, en effet, de la révolte, les éléments d'une attitude qui ne soit pas une attitude de pure destruction, de pur nihilisme, ce qui s'explique assez, si on veut bien considérer que je ne m'intéresse pas au nihilisme contemporain par goût esthétique ou personnel, je m'y intéresse dans la mesure où il est possible de le dépasser.
Que pensez-vous de ces propos de Albert Camus, ces propos qui datent de septembre 1955 et qui encore aujourd'hui en 2019 nous paraissent ne pas avoir pris une ride?
Oui, oui, absolument, je suis d'accord, c'est un grand maître, un grand écrivain. Et vraiment, j'étais influencé pas seulement par Camus, par la plupart des grands écrivains français. Et aussi, j'enseigne Camus, mais en anglais, dans mon atelier d'écriture. J'enseigne l'étranger de Camus. Et je ne sais pas si vous savez, mais j'avais un problème à l'aéroport du Caire.
Racontez-nous. J'ai cru comprendre que vous baladez avec un livre de poche d'Albert Camus.
C'était incroyable. C'était incroyable parce qu'ils m'ont dit, mes amis, écoute, tu ne dois pas avoir des livres en rentrant parce qu'ils vont prendre les livres. Il y aura un officier qui doit écrire un rapport sur les livres et des choses pareilles. Alors, j'ai pas porté de livres, mais j'ai oublié Camus dans mon sac. Ils ont trouvé, l'officier m'a trouvé, qu'est-ce que c'est que ça? C'était en anglais, j'ai dit, c'est un écrivain français, mais qui, je vous dis que il n'est pas contre Monsieur Sissi, du tout. Il a dit, vous l'avez rencontré en Amérique? Et j'ai dit non, mais j'aurais aimé vraiment le rencontrer. Il a dit, mais on n'avait pas rencontré. J'ai dit non, j'ai pas rencontré parce qu'il est mort en 1960. Alors j'avais 3 ans, c'était difficile de le rencontrer quand j'avais 3 ans. Alors il devait dire ça à son supérieur. Alors il a tenu le livre à la main comme ça, il a dit... Chuchoté comme monsieur, il a un écrivain français qui est mort en 1960. Il m'a dit comment il s'appelle votre fois. Alors j'ai essayé de prononcer Camus d'une manière vraiment très difficile pour lui. J'ai dit Camus. C'était impossible pour lui. Alors il dit il s'appelle Albert. Ce qui il y a tout le monde s'appelle Albert. Et alors. Ça vous donne vraiment une idée comment ça se passe.
Alors justement, parlons de l'actualité aujourd'hui. Vous avez publié un livre donc, qui s'intitule « Extrémisme religieux et dictature » qui est vraiment passionnant pour comprendre les personnes qui instrumentalisent la religion de l'islam à des fins de terrorisme, à des fins de corruption, à des fins de détournement des libertés publiques. Chacun de ces chapitres se termine par « La démocratie et la solution ». C'est chaque fin de chapitre, vous réécrivez « La démocratie et la solution ». En fin 2013, vous terminez ce livre en écrivant, je vous cite, à la Soigny, « Emprisonnez l'Égypte tout entière si vous le pouvez, mais notre révolution se poursuivra et vaincra avec la permission de Dieu, parce que nous appartenons à l'avenir et que vous appartenez à un passé qui ne reviendra jamais. La démocratie est la solution ». Or, aujourd'hui, ben, on sait ce qui se passe avec le président Sissi. On sait comment, il y a 2 mois, le référendum qui devait permettre au président Sissi de rester au pouvoir jusqu'en 2030 a été ratifié par le peuple égyptien. Alors, la démocratie est-elle toujours la solution?
Absolument, absolument. Et moi, je suis optimiste. Je pense qu'on a besoin du temps. La révolution, c'est pas seulement un changement politique, parce qu'on peut achever un changement politique sans révolution. La révolution, c'est un changement beaucoup, beaucoup plus profond. C'est un changement de vision du monde, c'est un changement de culture, c'est un changement de relation entre peuple et pouvoir. Et la révolution existe. On a besoin du temps. L'Égypte n'est plus l'Égypte qui était avant la révolution. Ça, le pouvoir égyptien ne comprend pas. Il essaye d'être plus cruel qu'avant. Mais je pense que ça ne sert à rien. Vous voyez, parce que on peut vivre sans révolution. Mais dès qu'on a une révolution, la révolution va gagner. Alors moi, je répète ce que vous venez de lire. Je pense que nous sommes le futur. Ils sont le passé. Et personne n'est capable d'arrêter le futur.
Votre expérience à la fois d'intellectuel engagé, de militant des droits de l'homme et d'écrivain racontant le quotidien de votre peuple vous ont permis d'avoir très rapidement une audience internationale. Nous avons demandé à Cyril Dion qui est aussi un activiste pour la paix dans le monde, de nous dire ce qu'il pense de vous. Écoutez.
Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un écrivain que j'admire beaucoup, à la fois pour son œuvre et pour son engagement d'être humain. Pour son œuvre, parce que je connais pas tout, mais en tout cas j'ai lu L'immeuble Yacoubian, J'ai couru vers le Nil et ses chroniques de la révolution égyptienne qu'il a écrit, qui ont été publiées en 2011 en France, mais qu'il a écrit pendant la révolution dans son pays. Et j'ai été très impressionné récemment par le courage qu'il a eu de publier son dernier ouvrage où il raconte finalement la révolution égyptienne avant, pendant et après, en expliquant comment les révolutionnaires ont finalement cru qu'ils allaient gagner, qu'ils allaient remporter la bataille et que le gouvernement, et particulièrement l'armée par derrière, avait déjà anticipé ce qui se produisait, avait déjà décidé de se débarrasser de Moubarak et d'œuvrer pour reprendre le pouvoir relativement insidieusement tout en laissant croire à la population que la révolution avait fonctionné. Et ce roman lui a valu d'être aujourd'hui en exil et d'être même menacé, poursuivi par le régime. Et c'est vrai qu'on a eu l'occasion d'en discuter pas mal et je lui disais mais qu'est-ce qui se passe au moment où tu choisis envers et contre tout d'écrire ce livre et tout en sachant les conséquences que ça peut avoir. Et il me disait que quand il écrivait il pensait pas à ça et qu'à partir du moment où c'était écrit il voulait plus revenir en arrière. Et je trouve que ça symbolise en tout cas quelque chose qui moi me parle dans l'engagement des artistes. C'est-à-dire que les artistes sont là à la fois pour raconter ce qui les traverse de leur époque, à la fois nous aider à mieux comprendre l'être humain, et particulièrement les romanciers ont cette fonction-là, et que ça peut être extrêmement puissant, et que justement quand c'est puissant, ça peut déranger les régimes, et ça peut être au prix c'est ce qui s'est passé aussi avec Salman Rushdie, de poursuites, de menaces. Et je suis plus qu'admiratif, en fait, je suis très bouleversé de ça, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose dont j'aimerais avoir le courage, sans doute. Et ce que j'ai envie de lui demander maintenant, c'est sur quoi est-ce que tu as envie d'écrire aujourd'hui? Qu'est-ce qui te traverse? Et est-ce que tu as encore l'espace d'écrire au milieu de ce tumulte dont tu es l'objet avec ce livre?
Réponse à la soignée.
Ah, j'écris bien. J'ai fini un livre sur la dictature. Il s'appelle le syndrome de la dictature. Intéressant ce livre. L'idée de ce livre est venue d'un grand, pour moi, d'un grand sociologue français, Étienne de la Boissie, du 16e siècle.
De la servitude volontaire.
Exactement. Alors, j'ai mis... c'est cette idée qui m'a inspiré pour essayer d'écrire...
Donc l'idée que développe Étienne de la Boétie, c'est de dire qu'à l'intérieur de chaque être humain, quel que soit l'endroit où il vit, et le régime politique sous lequel il vit, il y aurait à l'intérieur de chacun d'entre nous une sorte d'adhésion à une servitude qu'on voudrait.
C'est vrai, mais aussi...
Vous pensez que c'est vrai?
C'est vrai aussi, c'est
aujourd'hui.
Vrai. Oui, mais c'est vrai, mais l'idée vraiment qui m'a choqué, parce que il parle de l'Égypte au XVIe siècle, c'est que le dictateur, la dictature, c'est un phénomène qui est fait sur deux côtés, pas un seul côté. Il y a le dictateur, il y a le peuple qui accepte, qui peut tolérer et peut-être parfois qui attend la dictature. Vous voyez? Alors, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai commencé le livre par cette idée. Et j'ai fait vraiment une recherche sur la dictature tout autour du monde. C'est pas seulement les dictatures en Égypte, dans le monde arabe, en Amérique latine. J'ai étudié Hitler, j'ai étudié Mussolini et tout. Et j'ai trouvé, moi, j'ai trouvé vraiment une formule, c'est intéressamment, qui se répète. Dans toutes les dictatures.
Et quels que soient les siècles.
Quels que soient les siècles, c'est incroyable. C'est incroyable. Ils sont tous, ils ont tous les mêmes tendances, les mêmes motivations, d'une manière incroyable. Alors c'est ça que j'ai trouvé dans le livre que j'ai fini. Ça va être publié à Londres, en Angleterre, dans quelques semaines, et après en français. Et j'ai commencé mon nouveau roman qui est un roman sur Alexandrie, parce que Alexandrie présente pour moi l'aspect cosmopolite civilisé de l'Égypte qui existait, et après la dictature militaire qui a commencé en 1952, comment on a traité tout le monde qui a été accueilli avant, qui était égyptien. Comment on a traité les juifs, comment on a traité la dictature, comment on a chassé les juifs, les italiens, les grecs, ou chassé directement, ou indirectement, parce que si vous menacez les gens, si vous prenez l'argent des gens, si vous faites que vous embêtez les gens, ils vont partir.
Aujourd'hui, l'Égypte vous manque, Alaa al-Aswani ?
L'Égypte me manque, mais la dictature ne me manque pas.
Vous êtes toujours dentiste ?
Oui, mais pas en Amérique, parce que ça va changer ma vie si je change. Je cherche un cabinet dentaire à New York, ça sera. Moi, je suis écrivain et dentiste, et pas le contraire, vous voyez ?
Dernière question, Alaa al-Aswani, vous évoquez le futur du peuple égyptien, vous croyez encore à la révolution. On sait par les enquêtes menées au nom des droits de l'homme que l'Égypte en ce moment emprisonne beaucoup de militants sans aucune justice. On sait que beaucoup de jeunes sont arrêtés tous les jours. Est-ce que vous pensez, vous qui auscultez le fonctionnement des dictatures à travers le monde et en prenant un recul historique, est-ce que vous pensez que nous arrivons aujourd'hui au XXIe siècle dans un ère de dictature de plus en plus omniprésente et de plus en plus tolérée par les différents peuples ?
Absolument, absolument. Je crois que le danger continue et le combat continue. Le combat entre le côté humain et le côté qui est contre l'humanité. Entre les gens ordinaires, les artistes, les écrivains, et sur l'autre côté, il y a les extrémistes, il y a les hommes d'affaires qui s'intéressent à leur fortune.
Il y a des pays financeurs de terrorisme. Exactement. Que vous dénoncez avec beaucoup
exactement,
de violence.
Exactement. Et le danger continue. Pourquoi ? Parce que même dans les démocraties, un dictateur peut arriver à travers des élections. Alors, il fait tout pour monopoliser le pouvoir. Heureusement, il y a, en Amérique, par exemple, heureusement, il y a des instituts. Il y a les juges indépendants, démocratiques, qui fait que, ils ont contrôlé Monsieur Trump. Vous voyez?
Merci Alaa al-Aswani. Je rappelle que votre dernier ouvrage, restituant magnifiquement cette révolution sur la place Tahrir en 2011, s'intitule « J'ai couru vers le Nil », que c'est publié aux éditions Actes Sud, que c'est traduit de l'arabe par Gilles Gauthier. Et je vais terminer cette émission par une répétition que vous faites dans tous vos écrits et que je fais mienne, la démocratie et la solution.
Je sais pas quelle heure mettre le réveil, ça dépend de toi. Je sais pas pourquoi j'ai pas sommeil au fond de tes draps. Je sais pas quelle heure mettre le réveil, ça dépend de toi. Je sais pas pourquoi j'ai pas sommeil au au fond de tes bras. J'ai peur demain ce sera pareil, c'est du cinéma. C'est comme la lune et le soleil qui ferait un combat. J'ai peur demain ce sera pareil, c'est un opéra. Je sais pas à quelle heure c'était la veille, si c'était tes bras.
Je sais pas à quelle heure mettre le réveil, ça dépend de toi. Je sais pas pourquoi j'ai pas sommeil au fond de tes bras. J'ai peur demain ce sera pareil, c'est du cinéma. C'est comme la lune et le soleil qui ferait un combat.
J'ai peur demain ce sera pareil, c'est un opéra. Je sais pas quelle heure c'était la veille, si c'était tes bras. Je sais pas pourquoi mettre le réveil quand je rêve de toi. Je sais pas quelle heure c'était la veille, si c'était tes bras. Étoiler le ciel qui jouerait en bas. J'ai peur demain ce sera pareil, c'est un opéra. Je sais pas quelle heure c'était la veille, si c'était tes bras. Je sais pas quelle heure mettre le réveil, ça dépend de toi. Je sais pas pourquoi j'ai pas sommeil au fond de tes bras. Je sais pas quelle heure mettre le réveil, ça dépend de toi. Je sais pas pourquoi j'ai pas sommeil au fond de tes bras.
Et c'est avec Johann Papakonstantino, je ne sais pas, que nous allons nous quitter ce soir. Non, sans avoir remercié Paul Percheron qui était la technique ce soir, Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux, l'équipe avec Anne-Sophie Dazard, Élodie Royer, Pierre Dindy et Lilian Alaume qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission.